Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les pays d'essai et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Pascal Saintas. Docteur Saintas, bonjour.
Bonjour.
Docteur Saintas, vous êtes neurologue, praticien hospitalier au sein du service d'exploration neurophysiologique du département de neurologie de l'hôpital Pierre-Paul Riquet à Toulouse. Et vous êtes également coordonnateur du centre de référence des maladies neuromusculaires adultes et enfants Atlantique-Occitanie au sein du CHU de Toulouse. Alors, docteur Saintas, on va rentrer dans le vif du sujet. Quels sont les grands principes de prise en charge des PIDC?
Alors, les grands principes de prise en charge des PIDC doivent répondre à un certain nombre de critères. Le premier, c'est de savoir quels patients sont les plus éligibles au traitement. Et en particulier, nous avons assez régulièrement des formes relativement bénignes de polyradiculonévrite qui ne vont pas relever d'un traitement spécifique parce que le ratio entre le bénéfice du traitement et la lourdeur du traitement que l'on va revoir ensuite plaide en faveur de l'abstention. Et donc, ce sont des patients qui vont être suivis régulièrement. Ensuite, pour traiter les patients, en fait, ce qui va être important, ça va être de définir avec eux la stratégie thérapeutique et surtout le moment de l'évaluation de l'impact du traitement. Parce que, comme on le verra un petit peu tout à l'heure, je pense, un certain nombre de traitements mettent un certain temps avant de pouvoir être efficaces. Et bien entendu, parallèlement à cela, il faut associer à la prise en charge thérapeutique une prise en charge rééducative et un traitement symptomatique des douleurs, en particulier neuropathiques, qui font appel au même traitement que l'ensemble des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire les antidépresseurs, les paliers 2, les antiépileptiques à visée antalgique.
Et quels sont les types de thérapeutiques qui sont disponibles dans les PIDC?
Alors, on a plusieurs types de traitements disponibles. On a ce qu'on appelle les traitements de première ligne. Les traitements de première ligne, ce sont les immunoglobulines polyvalentes, en général par voie intraveineuse à l'initiation, et le traitement par corticoïdes. Certains patients peuvent présenter en fait des formes relativement aiguës ou des poussées de leur maladie qui, à ce moment-là, vont relever d'intensification thérapeutique transitoire par des cures d'immunoglobulines polyvalentes ou des échanges plasmatiques. Ensuite, il y a les traitements de deuxième ligne qui sont les traitements immunosuppresseurs. Donc, on a plusieurs traitements immunosuppresseurs à notre disposition qui seront là soit pour intensifier le traitement, soit à visée d'épargne cortisonique.
Et en pratique, docteur Saintas, quelles sont les modalités de suivi des traitements et d'évaluation de leur efficacité?
Le premier élément, ça va être d'essayer d'évaluer l'efficacité du traitement. C'est-à-dire que pour évaluer l'efficacité du traitement, on va utiliser un certain nombre d'échelles. On va mesurer la force musculaire, on va mesurer les capacités fonctionnelles du patient. Mais il va falloir appliquer ces échelles avec un certain délai par rapport à l'initiation du traitement parce que ces traitements mettent un certain temps avant d'être efficaces. Et donc, une corticothérapie s'évalue jamais avant 3 à 6 mois. Un traitement par immunoglobuline polyvalente peut avoir un effet immédiat, c'est-à-dire dans le premier mois de l'initiation du traitement, mais le plus souvent, l'effet se dessine petit à petit au bout de 2 à 3 mois. Le deuxième enjeu de ce suivi des traitements, ça va être d'évaluer la dépendance des traitements, puisque une fois qu'on a initier ces traitements, il va falloir être capable de réévaluer régulièrement si le patient nécessite toujours la poursuite du traitement ou si on peut soit interrompre le traitement, soit le diminuer de façon progressive. Et habituellement, les bonnes pratiques nous incitent à faire ces évaluations de dépendance au traitement tous les 6 mois, parce qu'on s'est aperçu qu'un grand nombre de patients étaient traités au long cours de façon inappropriée.
Et qu'en est-il de la prise en charge pédiatrique? Est-ce qu'elle est identique à celle des patients adultes?
Alors, la prise en charge pédiatrique est similaire. Il y a quelques petites différences chez l'enfant avec des formes atypiques un peu plus fréquentes chez l'enfant, des modes de révélation relativement aigus un peu plus fréquents chez l'enfant, mais les grandes lignes de prise en charge thérapeutique sont les mêmes chez l'enfant et chez l'adulte.
Et dans les PIDC, docteur Saintas, quelle est l'importance des centres experts pour leur prise en charge?
Alors, les centres experts, vous savez, maintenant, sur les maladies neuromusculaires, il y a un grand nombre de centres en France. L'intérêt est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'aider au diagnostic. Et donc, les centres experts sont là pour essayer de compléter le bilan étiologique, de confirmer le diagnostic avant de se lancer sur une thérapeutique de plusieurs mois. Le deuxième élément qui a été confirmé par les instances de santé, c'est qu'il est important que les centres de référence ou de compétences puissent réévaluer en particulier la dépendance au traitement pour aider en fait nos collègues à programmer des décroissances thérapeutiques et évaluer l'efficacité thérapeutique des patients. Ces centres de référence sont organisés au sein d'une filière nationale et on a mis en place récemment des réunions de concertation pour les cas les plus difficiles où les intensifications thérapeutiques un peu particulières doivent être envisagées. Et donc, il y a des RCP nationales qui sont organisées tous les deux mois.
Et en termes de prospective, pour conclure notre entretien, Dr Sintas, quelles sont les voies de recherche dans la prise en charge des PIDC?
Alors, il y a plusieurs voies de recherche actuellement. Il y a des voies de recherche sur l'utilisation d'alternatives thérapeutiques, c'est-à-dire des thérapeutiques qui peuvent remplacer les traitements par immunoglobulines en particulier, donc avec les immunoglobulines sous-cutanées, ou des thérapeutiques qui favorisent en fait la destruction des anticorps circulants comme les inhibiteurs des fragments FcRn. Et puis, il y a aussi des recherches sur des intensifications thérapeutiques, sur la place des greffes de cellules souches, mais également sur la découverte de nouveaux anticorps, en particulier ce qu'on appelle les antineurofaciennes et les anticontactines, qui représentent en fait des entités un peu particulières de PIDC qui justifient d'emblée des traitements beaucoup plus agressifs.
Eh bien, merci mille fois, Dr Sintas, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la PIDC. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.